Vous écoutez RTL.
Allez, tout de suite, bienvenue au pays des merveilles animales. Bah oui, Thomas, on est comme ça, donc bah oui. Les uns marchent sur l'eau, les insectes
Parlez
se prennent.
Merveilles animales, et vous me regardez,
fleurs,
j'adore.
Oui, vous êtes ça mon petit plaisir, animal ça. Chéri. Bonjour, Emmanuel Pouy-Debas.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS, au Muséum d'histoire naturelle. Il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir sur les animaux.
Ah oui, j'en suis sûre. Ah l'essentiel, oui. Probablement.
Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas toutes les espèces de la planète, c'est ça ?
Oui, on ne les connaît pas toutes, en particulier dans les océans. Donc il y a encore tout à découvrir, j'espère.
Il y a combien d'espèces animales ?
Oula, disons décrites plus d'un million, probablement, un million deux. Après, les estimations peuvent aller jusqu'à 10 millions. Hein.
Oui, parce qu'avec Thomas, à chaque fois qu'on fait une émission sur les fourmis, sur les papillons, etc., on nous dit oui, mais on connaît que la moitié du quart, du tiers de notre truc. Hein ?
Bon, vous publiez, c'est sûr, un livre vraiment magnifique, c'est l'Atlas de zoologie poétique, quel titre, chez Artaud, des illustrations signées Julie Terrazzoni. Vous avez choisi de nous raconter 36 animaux extraordinaires. On commence dans un instant avec un poisson, écoutez bien, un poisson qui se met à la sculpture pour séduire.
Notre planète compte actuellement 8,7 millions d'espèces vivantes et chaque année, plusieurs milliers de nouvelles espèces sont découvertes.
RTL.
Certaines ont un aspect tellement insolite qu'on a parfois du mal à croire qu'elles existent bien.
La curiosité est un vilain défaut.
Voici ces espèces complètement étranges et souvent inconnues.
Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
On se penche sur les merveilles du monde animal avec vous, Emmanuel Pouy-Debas. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et au Muséum d'Histoire Naturelle. Alors, on va parler bêtes de sexe, pour faire plaisir à Thomas. On va parler grand séducteur.
On est marre de cette réputation totalement infondée.
Torride. Emmanuel, vous adorez le poisson globe.
Oh, j'ai eu peur.
Le tomaïque. Vous adorez le tomaïque. Alors, le poisson globe. Revenons-en aux animaux.
Le poisson globe. Alors, bête de sexe, je ne sais pas, mais grand séducteur, ça c'est sûr. Hein.
Ouais.
Faut imaginez ce petit poisson qui fait une dizaine de centimètres.
Oui, décrivez-le nous.
Ouais, il fait une dizaine de centimètres, il vit dans l'océan Pacifique. Et en fait, pour séduire les femelles, il fait une construction qui est tout à fait extraordinaire. Il fait des magnifiques rosaces qui sont très symétriques. Alors, il fait en plus avec des reliefs. Hein, il utilise ses nageoires et son corps pour créer des reliefs circulaires. Et il va agrémenter les reliefs de petits coquillages hein, pour que ce soit encore plus beau. Et tout ça pour attirer mesdames poissons globes.
Mais ça lui prend combien de temps ?
Ça lui prend entre 7 et 9 jours, à peu près. Et ça fait bien 2 mètres de diamètre. Hein. Donc pour un petit poisson de 12 cm, c'est assez extraordinaire.
Mais c'est dingue. Donc attendez, je veux bien comprendre. Il est à la fois constructeur.
Ça fait rêver. Hein.
Mais oui, il est à la fois. Moi, j'ai fait des jolies choses hein, pour la fin de ma vie. Mais bon.
Ça va vous inspirer.
Il est à la fois constructeur.
Non, je pense que le poisson globe pourrait être inspiré par Thomas. Excusez-moi,
non, c'est
contraire.
Ouais. Cette émission par an. Hein. Bon. Alors, il est donc à la fois constructeur et artiste parce que c'est beau
oui,
ce qu'il fait, c'est
complètement.
Ça ? Et alors ça marche, les femelles s'arrêtent.
Alors, tristement, pas toujours.
Ça nous rappelle des souvenirs, messieurs.
On va retenir le positif, hein. Des fois ça marche. Bon. Et quand ça marche, il y a une autre fonction hein, de ces cercles. En fait, les œufs vont être pondus au milieu du cercle et on pense que les reliefs sont là aussi pour protéger les œufs. Donc c'est beau et utile à la fois.
Qu'est-ce qu'elle fait la femelle ? Elle inspecte le labyrinthe, la construction ?
Oui, oui. Alors par contre, il y a encore des choses à comprendre du côté de la femelle. Oui. C'est assez récurrent. Hein.
C'est une leçon générale, ça.
En fait, on sait pas encore comment la femelle... quels sont les critères que la femelle utilise pour sélectionner les mâles. Okay. Il y a encore
Alors,
des choses à découvrir.
Couple toujours une autre immense séductrice qui est l'araignée paon. Ah. Une araignée sauteuse.
L'araignée paon, c'est une araignée sauteuse. C'est un petit mâle, en fait, qui est tout petit. Hein. Ça fait pas plus de 5 mm. Et en fait, le mâle a un abdomen coloré. C'est magnifique. Hein. Jaune, bleu... rouge. Et en fait, pour séduire, alors lui, il va parader. Alors il exerce vraiment une danse. Hein. C'est une petite danse. Il va faire des allers-retours tout en bougeant son abdomen pour hypnotiser la femelle.
Toujours comme Thomas. En fait.
Oh, ça suffit. T'as déjà fait la danse trois fois. Ça prend toute l'émission.
Il y a de quoi vous inspirer, en tout cas.
Oh, bah oui, là, il prend des notes. Hein,
et ça marche. Par contre, j'espère que la suite, ça se passera pas pareil pour
oui,
vous. Parce que ça.
Les araignées mâles se font souvent voilà. Bouffer.
Ça
oui,
peut arriver.
Ça. Non, ça veut dire que s'il est pas tiré à quatre épingles. S'il montre pas la plus jolie... Non, mais non, mais Thomas
ah, moi, je vous laisse faire l'interview, c'est
écoutez,
bon.
S'il est pas... Il faut que la lumière le montre son meilleur jour,
exactement.
C'est ça
en fait, chaque mâle va utiliser l'orientation de la lumière d'une manière spécifique pour... pour faire vraiment ressortir les couleurs de son abdomen. Et chaque mâle va avoir une danse et une orientation de l'abdomen spécifique. Bon, si bien que les femelles, alors là pour le coup, les femelles sélectionnent vraiment les mâles selon leur parade et selon l'orientation de leur abdomen.
J'espère qu'elles ont une bonne vue, les femelles, pour choisir les bons.
Elles ont une bonne vue, oui. Ouais. Alors pas toutes les araignées, mais cette araignée-là, elle a une bonne vue, il y a 8 yeux. Hein. Donc ça lui permet, d'ailleurs ses yeux sont largement utilisés pour bien attraper les proies.
Alors on va faire aussi la découverte du requin qui a fait un bébé toute seule, comme dirait Jean-Jacques Goldman. A tout de suite, les curieux.
Okay. Ouais.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut, avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
Mais qui a fait un bébé toute seule, Emmanuel Puy-de-Bas, avec vous? On parle des merveilles du monde animal. Et là, on est tombé sur quoi? Un requin marteau.
Oui,
c'est ça.
Un requin marteau, en fait, ça faisait 3 ans qu'il était dans un bassin aux États-Unis. Puis à un moment donné, il y a un bébé qui est né. Donc c'est là qu'ils ont découvert que le requin marteau était capable de parthénogenèse, c'est-à-dire que la femelle a fait un bébé toute seule. Ça existe.
Sans rentrer trop dans les détails, ça marche comment?
Il n'y a pas de fécondation. Il y a une cellule, la femelle a une cellule, une gamète, une cellule sexuelle qui va se transformer en embryon. Il n'y a pas de fécondation.
Alors, dans cette émission, on s'est passé d'animateurs et de réalisateurs radio avec les enceintes connectées qui vont nous piquer le boulot. Et là, on se passe des mâles. Hein.
Oui, bon,
voilà. Je pars. Je vous laisse,
très,
je vous laisse ce studio. Débrouillez-vous
sans
moi.
Ça ne sera pas douloureux.
Hein,
vous
voilà.
Allez
non, ça va bien se passer.
Alors, on a parlé orgie sexuelle, on a parlé bête de sexe, hein,
oui.
Pour faire plaisir à Thomas. Et là, maintenant, on va entrer dans les grandes questions philosophiques.
Ah, bah ça, c'est pour Anaïs, évidemment.
Alors, qui est Hibernatus? Celle qui est capable de ressusciter après avoir été congelée.
C'est la grenouille des bois d'Alaska, en fait, quand les températures sont vraiment trop basses, elle s'enterre, et donc elle suspend quasiment ses fonctions vitales, elle respire quasiment plus, son cœur s'est quasiment arrêté, le sang circule plus, ses pattes sont cassantes, et puis quand les températures...
Les pattes cassantes.
Oui, les pattes sont cassantes, tout à fait.
C'est-à-dire que si on attrape ses pattes, on peut les casser d'un petit coup.
Oui, complètement. Mais elle est toujours vivante, et quand les températures redeviennent plus clémentes, elle, entre guillemets, elle ressuscite. C'est un glucose en fait, qui est produit par son foie et qui est cryoprotecteur, en fait, qui protège ses cellules du gel.
Et donc, elle ne gèle pas complètement, c'est ça?
Il y a toujours son cœur qui bat, mais très légèrement.
Complètement ralenti. Bon, on a Hibernatus. Et maintenant, voilà, Benjamin Button. Vous vous souvenez, c'est ce personnage qui rajeunit au fur et à mesure que le temps passe. Et là, c'est une méduse qui a ce pouvoir extraordinaire. Quelle méduse et comment fait-elle?
Alors, c'est une toute petite méduse qui fait 5 mm maximum. Mmh. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand elle est en stress, alors soit stress alimentaire, climatique, ou quand elle juge qu'elle est trop vieille. Elle ne juge pas, mais quand elle est trop vieille, elle inverse son processus de vieillissement. Elle est capable de rajeunir, de revenir à son stade juvénile, c'est-à-dire un stade de polype, et elle redémarre ensuite le processus.
Voilà qui doit passionner les chercheurs. J'imagine qu'il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur... C'est quoi son petit nom? La Turritopsis nutricula, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Je l'ai dit dans l'ordre.
Oui.
J'ai dit toutes les lettres dans l'ordre.
Elle a une vie éternelle?
Non. Potentiellement, elle est immortelle, oui. Alors après, elle ne l'est pas parce qu'il y a plein d'événements de la vie qui font qu'elle peut mourir, bien sûr. Potentiellement, elle est immortelle. Donc évidemment, ça intéresse la recherche.
Bon.
Alors,
on a maintenant, vu on vous annonce le Messie, Jésus-Christ. Sauf qu'il a une tête de...
Lézard.
Ah, Jésus-Christ est un lézard. Racontez-nous ça.
C'est pas moi qui l'ai dit.
C'est moi. Non, c'est un lézard qui marche sur l'eau, c'est ça?
Alors, qui court sur l'eau. Pour fuir les prédateurs, c'est le lézard basilic. Il est capable de courir sur l'eau. Alors, relativement rapidement, parce qu'il est léger, il va courir à 10-15 km/h. Nous, pour arriver à faire la même prouesse, il faudrait qu'on court à 100 km sur l'eau. Donc ça vous donne un petit peu un ordre d'idée.
Il court extrêmement vite pour sa taille.
Oui,
c'est ça,
il court très vite pour sa taille. Et après, il a tout un processus biomécanique qui lui permet de pas couler, notamment un mouvement latéral des mouvements latéraux des pattes arrière. Il utilise aussi sa queue pour utiliser la vague pour surfer, en quelque sorte, pour pas s'enfoncer dans l'eau.
Jésus-Christ est un surfeur.
Il est horriblement moche. On l'appelle le diable cornu.
Non, ce n'est pas vous, Thomas.
C'est que vous me regardiez encore une fois.
Mais non, Thomas. On l'appelle aussi le Moloch hérissé. Qui est-il?
C'est un scandale, cette émission. Le Moloch, il est horriblement moche.
Non, c'est vrai.
Bon, on va rétablir la vérité. Il est super beau, le Moloch. Il a des écailles, il a des épines.
Non, mais c'est vrai. Il est merveilleusement dessiné par Julie Terrazzoni dans votre livre publié chez Arthos. C'est Atlas de zoologie poétique.
Le livre est complètement dingue.
Et alors, c'est quoi les caractéristiques de ce
On va voir
ce
ça
diable
juste
cornu
après la publicité, ça, si vous bon voulez teaser. Bien, Thomas. À tout de suite.
Nous vivons au 21e siècle et tous les continents ont déjà été découverts.
RTL.
Mais la nature est réellement pleine de surprises. Quand tu penses avoir tout vu, de nouvelles créatures bizarres font leur apparition.
Anaïs Bouton, la curiosité est un vilain défaut.
36 merveilles du monde, c'est le titre que vous auriez pu donner à votre livre, Emmanuel Pudebas. Avec vous, les animaux sont fantastiques, c'est simple. Et sur RTL, on les découvre, on feuillette avec vous ce livre Atlas de zoologie poétique publié chez Artaud. Et notamment donc ce diable cuirassé, le diable cornu, c'est un lézard. Est-ce que vous pouvez nous dire où il vit et quand même le décrire? Parce qu'on a beaucoup rigolé tout à l'heure, mais on n'a pas bien compris ce que c'était.
Bah, c'est un lézard qui vit en Australie et qui est pourvu de plein d'écailles et plein d'épines, mmh. et notamment une grosse boule épineuse derrière la tête, qui lui donne l'impression d'ailleurs d'avoir deux têtes, et ça impressionne largement ses prédateurs.
Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? Qu'est-ce qui justifie sa présence dans ce livre?
Déjà, c'est rien que son apparence. Hein. C'est quand même un animal très particulier. On a l'impression qu'il a une tête de petit rhinocéros. Enfin, c'est très particulier. C'est un camoufleur. Et puis, c'est un grand consommateur de fourmis. En un repas, il peut avaler 3000 fourmis en un seul repas. Donc, c'est un animal assez impressionnant. Et puis, pour boire aussi.
Comment il boit?
Il utilise en fait les épines qu'il a sur le corps. C'est comme des sortes de pailles, finalement, qui vont aspirer l'eau qu'il peut y avoir dans le sable, par exemple, à son contact. Donc, par capillarité, l'eau va intégrer ses épines, et par un système de rainures relativement complexe, l'eau va converger jusqu'à la base de sa bouche.
C'est génial. Et alors, quand vous dites tenue de camouflage, c'est-à-dire il ne change pas de couleur quand même?
Non, il ne change pas de couleur, par contre il est vraiment...
Il a ces couleurs qu'on voit dans le livre, là un peu...
Ocre,
ouais,
un peu ocre, jaune.
Un peu doré, jaune, ouais, pour se camoufler dans le désert.
Adapté aux couleurs du désert.
Tout à fait.
Alors on va maintenant parler d'une terreur, le ratel, le zorille du Cap ou blaireau à miel. Je ne parle toujours pas de
une seule bestiole.
Qu'est-ce que c'est que cet animal?
Il a plein de surnoms. Hein. C'est vrai que c'est une terreur. Il a peur de rien. Il s'attaque à tout, y compris aux porcs-épics. Hein. Et pourtant, les porcs-épics, c'est relativement dangereux. Il a peur. Il n'a pas peur des lions. Il n'a pas peur des hyènes. Il n'a pas peur de tous les autres carnivores. Il a peur de rien. Il n'a même pas peur des serpents.
Alors qu'il est tout petit?
Il est tout petit, non, mais il fait moins d'un mètre en tout cas.
Ah, donc c'est quand même assez grand.
Oui, c'est quand même assez grand. Ouais. Hein. Mais par rapport aux grands carnivores comme les lions ou les guépards, il est quand même relativement plus petit.
Ça veut dire qu'il cherche la bagarre?
Il cherche pas forcément la bagarre, mais disons qu'il faut pas trop l'embêter. Après, pour vous donner un ordre d'idée, ouais. c'est un animal, quand il se fait mordre par des serpents, et pas des moindres, hein, vipère hortante, cobra du Cap, il peut tomber dans le coma pendant plusieurs heures. Et quand il sort du coma, il va terminer le serpent et il va repartir à la chasse. Il apprend en fait petit avec sa mère, il apprend à s'auto-immuniser en fait des venins de scorpions et aussi de serpents.
C'est aussi un roi de l'évasion, c'est ça?
Oui, alors il est connu dans certains, en captivité, il est connu pour s'évader, pour utiliser tout ce qui lui passe sous la patte, des pneus, des râteaux, des pierres qu'il va empiler pour s'évader. Il sait aussi crocheter des serrures, pas tous, hein, mais certains individus.
Mais vous disiez qu'il l'apprenait avec sa maman.
Oui, tout petit en fait, sa mère lui apprend en fait à se faire mordre pour qu'en fait, d'un point de vue physiologique, il puisse apprendre à s'auto-immuniser contre le venin de serpents et aussi de scorpions. Mais ça ne l'empêche pas de tomber dans le coma quand il est adulte, hein, mais néanmoins, il peut s'en sortir, et quand il s'en sort, il repart à la chasse.
Donc il a la capacité à sortir du coma?
Oui, complètement.
Donc on a un lézard qui court sur l'eau, j'essaie de récapituler, une grenouille hibernatus qui est capable de se réchauffer après avoir été complètement congelée, on a une méduse qui rajeunit. Tous ces animaux, est-ce qu'ils font aujourd'hui l'objet de recherches scientifiques médicales pour que nous, on en bénéficie éventuellement?
Oui, tout à fait. Il y a des recherches fondamentales pour comprendre toutes les adaptations de ces animaux-là, mais aussi des recherches bio-inspirées.
Comment ça veut dire quoi, une recherche bio-inspirée?
Bio-inspirée, ça veut dire comment est-ce qu'on s'inspire du vivant, mm-hmm. pour en tirer des bénéfices pour nous, quel qu'il soit, dans l'industrie et évidemment pour le corps médical.
Et d'ailleurs, on avait raconté dans une émission la patelle, là, vous savez, le chapeau chinois qui a servi à faire une colle chirurgicale, parce que c'est des petits coquillages, c'est ça, qui ont une capacité à rester accrochés à leur rocher. Oui. C'est devenu une colle chirurgicale. Voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Emmanuel Pudebas, d'être venu dans notre émission. C'était passionnant.
Merci
à bientôt.
À vous.
Et je rappelle le titre de votre livre, Atlas de zoologie poétique, avec des illustrations magnifiques de Julie Terrazzoni chez Artaud.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.